Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelques réflexions concernant la résurrection. Nous arrivons à l'étude numéro 5. En Saint Jean, au chapitre 20, verset 19, il est parlé de la porte fermée de mon cœur. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et il se tient au milieu et il leur dit « Paix à vous !» Saint Jean chapitre 20, verset 19. Le ressuscité passe au travers de portes closes. La peur des disciples, les portes fermées, rien ne l'empêche Jésus de venir parmi eux. Magnifique image de la résurrection. Voyez-vous, bien souvent, nous fermons notre porte aux autres. Nous ne laissons personne entrer chez nous. Faisons de notre peur une carapace. Aucun verrou, aucune serrure ne peut empêcher le ressuscité d'atteindre notre cœur. Oui, aucune communauté de chrétiens qui se referme sur elle-même ne peut empêcher le ressuscité de venir la visiter et même de transformer son rapport aux autres. La porte, donc, dans bon nombre de personnes, symbolise l'accès au moi profond de l'être humain. Du reste, Jésus dit de lui-même dans l'évangile du bon pasteur, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je répète, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Saint Jean chapitre 10, verset 9. Jésus est lui-même, c'est lui la porte qui nous donne accès à la vie. La porte, elle symbolise le passage d'un domaine à un autre, de ici-bas à l'au-delà, du profane au sacré. Voyez-vous, au Moyen-Âge, sur le portail des cathédrales, trônait Jésus. On savait alors que l'on entrait par Jésus dans le domaine de la véritable vie. Nous sommes sauvés, vous et moi, si nous prenons les paroles de Jésus au sérieux. Alors là, nous franchissons la porte qu'il est pour accéder, lui. Il est cette porte où nous pouvons accéder à notre moi profond. C'est lui qui va accéder à notre moi profond, évidemment. Il y a deux images et qui expriment cette nouvelle vie. Vous et moi, nous entrerons et nous sortirons et nous trouverons un pâturage. En nous, le flux de la vie va entrer et sortir et nous sortirons du repli sur nous-mêmes. Terminer de nous replier sur nous-mêmes. nous ne vivrons plus de façon superficielle. Il arrive du reste dans nos rêves que nous ne trouvons plus la porte de notre maison. C'est tout simplement que nous ne trouvons pas l'accès à nous-mêmes, que nous sommes contraints de marcher sans trouver le chemin de notre âme. Si nous entrons par la porte que le Christ, qui est lui le Christ, si nous entrons par sa porte, eh bien, nous pouvons aller et venir, nous pouvons accéder à notre cœur, à notre âme et notre esprit, et donner forme à ce monde. Nous trouvons alors un pâturage, enfin, une terre qui nous nourrit vraiment. Que le Christ soit donc la véritable porte, et cela est une belle image de la résurrection. Même si nous verrouillons nos portes, eh bien, croyez-moi, le Christ, qui est la porte de la vie, il les franchira malgré nous. Et à ce moment-là, nous aurons accès à nous-mêmes par Jésus-Christ. Chers amis à l'écoute, ayez donc confiance, toi qui écoutes, aie confiance aujourd'hui des portes que tu franchis. Certaines sont décorées avec art, d'autres ouvrent sur l'extérieur et te permettent de quitter l'air vicié de ton bureau. D'autres encore ouvrent sur des espaces où tu te sens bien, de grands et beaux espaces inondés de lumière. Ces espaces sont en quelque sorte l'image de ta véritable demeure. Imagine un peu que tu guides le ressuscité Jésus dans chacune des pièces de ta maison, et cela afin que tout ce qui est fermé puisse s'ouvrir, que tout ce qui est caché et refoulé puisse reprendre vie. Te souviens-tu de tes rêves dans lesquels les portes jouent un rôle important? Quelle porte devrais-tu franchir afin que ta vie s'ouvre, afin que tu aies accès à la pièce qui te convient? Quelle porte attend que tu l'ouvres? Jésus dit donc « Paix à vous ». Saint Jean chapitre 20, verset 19 à 21. À deux reprises, le ressuscité salue les apôtres en leur souhaitant la paix. Saint Jean chapitre 20, verset 19 et 21. Ce qui est inhabituel dans l'Église primitive, lors de chaque célébration, la Sainte Cène, le pasteur ou le frère responsable saluait l'assemblée par ces mots mêmes en disant « Paix à vous ». Et alors chacun savait que le ressuscité était présent parmi eux, que Jésus se trouvait présent au milieu d'eux. Le Christ ressuscité pouvait donc leur parler et leur prouver son amour parfait, amour rendu visible parce qu'il a traversé la mort. Chez l'apôtre Jean, c'est le Seigneur ressuscité et glorifié qui parle. Il parle aux disciples avant son ascension vers le Père. Et c'est avec les mêmes mots qu'il s'adresse à nous maintenant, avec des mots qui proviennent de la magnificence du Père et que nous percevons encore aujourd'hui, ici et maintenant. Ce sont donc les mots de l'amour agapé, qui anéantissent les limites de la mort et qui relient le ciel et la terre. La Sainte Cène peut être comprise à partir des deux images que donne l'apôtre Jean de ce soir de Pâques. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus leur a montré ses mains et son côté. Saint Jean chapitre 20, verset 20. Le ressuscité Jésus, à chaque fois que nous sommes rassemblés pour le partage du pain, il nous parle et il nous montre aussi ses blessures, ses mains trouées. Elle nous rappelle qu'il a agi pour nous, pour toi qui écoutes. Faisons de ses mains un bouclier pour nous protéger. Ces blessures sont aussi celles de nos propres mains, les coups que nous avons reçus de certaines personnes. Ce sont ces mains-là qui s'agrippent à nous, qui ne nous lâchent plus, qui nous clouent au sol, qui nous paralysent et qui nous font souvent souffrir. Nos mains sont blessées chaque fois que quelqu'un refuse la main que nous tendons. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène, Jésus prend dans ses propres mains toutes nos blessures, toutes nos souffrances. Jésus signifie à ses disciples en leur montrant ses mains qu'il leur a tout révélé. C'est ce qu'il nous dit à notre tour lors de chaque Sainte Cène. Je vous appelle amis, nous dit-il, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Saint Jean chapitre 20, verset 15. Jésus nous tend donc aussi, en plus, son côté blessé. De cette blessure sortent sang et eau. Ça, c'est l'image de l'Esprit-Saint qui se répand sur nous, de l'amour qui nous pénètre. En célébrant la Sainte Cène, nous buvons symboliquement le sang de Jésus, et dans ce sang s'incarne l'amour de Dieu. Nous prenons son corps dans nos mains afin qu'il en guérisse toutes les blessures. Nous buvons le sang du calice, de la coupe, ce sang répandu pour nous afin que l'amour du Christ puisse pénétrer en nous pour nous transformer. Comme les disciples, nous devrions aussi répondre au mystère de l'amour rendu visible pour les plaies du ressuscité. Les disciples furent remplis de joie. Et comment? À la vue du Seigneur, Saint Jean chapitre 20, verset 20. La seconde image que nous donne l'apôtre Jean de ce soir de Pâques se traduit dans ces paroles de Jésus qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jésus te dit, toi qui écoutes, il te dit moi aussi, je t'envoie. Saint Jean chapitre 20, verset 21. La résurrection fait donc de nous des envoyés de Dieu. Il ne suffit pas de nous réjouir de la présence du ressuscité. Encore faut-il que nous répandions sa parole. Nous devons répandre sa parole à travers le monde et que nous témoignions de son amour. On peut faire ça autour de nous. Certainement, c'est possible, même dans votre environnement, dans votre propre famille, pourquoi pas. Par notre intermédiaire, Jésus veut pénétrer toutes les sphères de ce monde. Il force les portes, il force les hommes qui gardent tout fermé et qui se referment sur eux-mêmes, souvent pétrifiés qu'ils sont par la peur. Et grâce à nous, grâce à toi, Jésus veut montrer à tous son côté. Ses mains, il veut les poser tendrement sur les hommes, sur les femmes, pour leur donner courage et réconfort. J'ai ajouté « femmes » parce que je ne voudrais pas que ce soit mal compris. Quand la Bible dit « homme », elle comprend automatiquement « femme » avec. Alors parfois, j'ajoute pour pas qu'il y ait des malentendus qui peuvent être tristes. Vous savez, je ne suis pas macho du tout, absolument pas, et je ne l'ai jamais été, et je ne le serai jamais. Jésus, il dit qu'il nous faut, en son Saint-Nom, par son Saint-Nom, travailler de nos mains au bien des hommes. Et donc, vous avez compris, ça veut dire également pour nos chères sœurs. Par notre cœur, c'est son côté que Jésus veut montrer aux hommes, et j'ajoute aux femmes. Inondé de son amour, notre cœur adoucira la solitude des hommes. Et toi, que veux-tu prendre en main? Sur qui veux-tu poser tendrement tes mains? À qui veux-tu tendre la main en signe de réconciliation? À qui veux-tu montrer ton cœur, ton amour, ta bonne volonté? Prends garde à montrer un cœur largement ouvert plutôt qu'un cœur fermé. Imagine que dans ce geste, c'est le Christ ressuscité qui veut montrer son amour aux hommes, et j'ajoute aux femmes. En Saint Jean, chapitre 20, verset 22, nous constatons que Jésus répand sur nous le souffle de son amour. Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, ceux à qui vous remettez les péchés, c'est ce qu'il y est dit dans Saint Jean chapitre 20, verset 22. Je répète, ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus souffle donc sur ses disciples et il leur transmet ainsi son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint par lequel il a agi par lequel il a parlé et aimé, quand il souffle sur nous son esprit, alors nous pouvons à notre tour agir, nous pouvons à notre tour parler et aimer. C'est son Esprit Saint, c'est son propre rayonnement que nous transmettons dans nos actes. Souffler sur quelqu'un, c'est donc lui donner ce que nous avons de plus intime. Jésus nous transmet ainsi son amour. C'est quand nous inspirons, c'est cet amour que nous inhalons maintenant. Il n'existe pas de proximité plus grande avec Jésus que lorsqu'il souffle sur nous son amour. Nous devons donc respirer pleinement afin qu'à chacune de nos inspirations, son parfum nous rapproche de lui. Le mot grec amphisao, souffler, est utilisé pour traduire la création dans la Genèse. Le souffle de Dieu éveille ainsi à la vie toute la création. Le souffle de Jésus est lui aussi créateur. Il crée en nous une réalité toute nouvelle. L'amour qui nous transit. Pour l'apôtre Jean, l'amour s'exprime avant tout dans le pardon des péchés. Non pas seulement celui que Dieu nous accorde, mais également celui que nous accordons aux autres. Pardonner à quelqu'un qui m'a blessé est pour l'apôtre Jean l'expression de l'Esprit Saint, le souffle du ressuscité. Tant que je ne peux pardonner à d'autres, si je peux jamais faire cela, eh bien je reste sous son emprise. Je suis prisonnier, par exemple, de la colère, de la douleur et même de la tristesse. Traversé par le souffle du Christ, je peux maintenant pardonner. Alors l'autre n'a plus de pouvoir sur moi, voyez-vous, car le péché isole et exclut de la communauté et scinde la personnalité. Elle scinde la personnalité. C'est ce que j'ai voulu dire et je l'ai peut-être mal dit à cause, j'ai pas d'excuses, je suis de langue allemande et des fois la langue fourche. Alors je répète, le péché nous isole, vous et moi. En effet, le péché nous exclut de la communauté et scinde la personnalité. Donc, par l'amour et par le pardon, l'homme, et j'ajoute la femme, retrouve son unité et une place dans la communauté. La vie et l'amour circulent à nouveau dans ses veines. Surveille donc ta respiration et imagine, c'est pas défendu, que c'est l'Esprit Saint de Jésus que tu inspires, que c'est son amour qui pénètre en toi par tous les pores. Comment te sens-tu maintenant? Quel goût a ta vie? Quand cet amour est ta réalité la plus profonde, le pardon ne te coûte plus. Est-ce que tu comprends? Par cet amour et par la réalité, cette réalité absolue, le pardon ne te coûte plus, car tu oublies tout simplement la blessure reçue, parce que l'amertume, elle ne trouve plus place en toi. L'amertume, ce n'est pas une bonne chose. L'amertume, ça peut même procurer des tumeurs, voire le cancer. Donc, tu sens l'amour et le pardon te délivrer du pouvoir de ceux qui t'ont blessé. Maintenant que tu te sais pardonné, heureusement, gloire à Dieu, et grâce à l'amour du Christ, tes anciennes blessures guérissent. Ta vie n'est plus orientée par ces blessures, mais elle est orientée par la réalité de l'amour de Dieu, l'amour de notre Sauveur et Seigneur. En Thomas, le bien-aimé disciple aussi, Thomas, là, l'apôtre Jean nous décrit comment notre foi en le ou en la résurrection peut grandir par le biais du doute. Oui, nous sommes souvent tous des Thomas. Moi, j'étais souvent un Thomas. La figure de Thomas, ou de Thomas, je pense qu'on le dit comme ça, cette figure depuis toujours a fasciné les hommes. On a souvent vu en lui celui qui doute, ébranlé dans notre foi par nos propres doutes, nous pouvons nous reconnaître en lui. Il nous est devenu sympathique, car il est en quelque sorte notre jumeau. Mais regardons un peu de plus près comment l'apôtre Jean interprète le comportement de Thomas. Il n'était pas présent lorsque Jésus est apparu aux disciples le soir de Pâques et qu'il a soufflé sur eux l'Esprit Saint. Bien que les disciples lui rapportent ce qu'ils ont vu, ils ne les croient pas. Eh bien oui, nous sommes comme ça. Il leur répond, voyons, moi je peux vous dire une chose seulement. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, eh bien, je ne croirai pas. Rien à faire. Saint Jean, chapitre 20, verset 25. En fait, notre ami Thomas n'est pas celui qui doute, mais c'est celui qui cherche. En effet, en réalité, il cherche. Il cherche à tout pouvoir éprouver par lui-même. Ce n'est pas tout faux. Il ne se contente pas de croire ce que les autres lui racontent. Il lui faut encore voir et toucher par lui-même. Et à cette condition seulement, il commencera à croire. L'apôtre Jean nous invite donc à nous mettre à l'école de Thomas pour trouver la foi en la résurrection. Notre foi a donc besoin de l'expérience. Tenir pour vrai ce que l'on nous raconte va à l'encontre de notre dignité. Notre désir d'éprouver par nous-mêmes est justifié, bien sûr. Mais si nous voulons faire l'expérience du miracle de l'amour, nous devons, comme Thomas, accepter la réponse inattendue et singulière de Jésus. Thomas pose à sa foi une condition qui interpelle chacun de nous. Pourquoi accorde-t-il tellement d'importance aux plaies de Jésus, aux marques des clous sur ses mains et à la blessure de son côté? Peut-être a-t-il besoin de la preuve que le crucifié est vraiment le ressuscité et qu'ils sont une seule et même personne. Parce qu'il est très difficile de croire que celui qui meurt dans de telles souffrances puisse un jour revivre encore, revenir à la vie. Il est donc difficile pour lui d'admettre que le Messie est mort sur la croix de façon si inattendue et surtout si terrible. Alors il a bien sûr besoin d'une preuve tangible pour croire en la résurrection. 8 jours plus tard, les disciples se trouvent à nouveau rassemblés, toutes portes closes. 8, le chiffre 8, est le chiffre de l'infini et de l'éternité. Le 8e jour, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour sans fin. Le dimanche, pour les chrétiens, symbolise ce jour-là. À la fin du 1er siècle, à l'époque où l'apôtre Jean a écrit son évangile, les chrétiens se rassemblaient derrière des portes closes. Pourquoi? Mais surtout dans l'espoir d'échapper aux persécutions romaines. Les portes fermées symbolisent aussi en quelque sorte l'état de peur dans lequel se trouvent ceux que la rencontre avec le ressuscité au soir de Pâques n'a pas encore conduit à la foi. Le salut, on parle du salut, c'est ça le salut. Paix à vous, par lequel Jésus s'introduit au milieu des disciples. C'est aussi celui qu'il prononce devant nous chaque fois que nous sommes réunis autour de lui pour le partage du pain. Avec Thomas, à Saint Jean, l'apôtre Saint Jean veut donc nous montrer en quelque sorte comment, en célébrant la Sainte Cène dimanche après dimanche, nous apprenons à croire en la présence du ressuscité, en la présence de Jésus. Et Jésus autorise Thomas à faire ce qu'il avait interdit à Marie de Magdala. Il lui permet de le toucher. Le soir de Pâques, il a seulement montré ses mains et son côté. Maintenant, il exhorte Thomas à mettre ses doigts dans ses plaies. Dans la Sainte Cène, Jésus n'est pas seulement au milieu de nous, il se laisse toucher. Quand nous recevons son corps sous la forme du pain dans nos mains, nous touchons ses blessures, car ce pain est sa chair. Oui, c'est sa chair qu'il a donnée afin que nous vivions, nous également, maintenant. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 51. Quand nous buvons le vin de la coupe, c'est symboliquement le sang qui jaillit de son côté que nous buvons. J'ai précisé symboliquement. Il nous arrive exactement ce qui est arrivé à Thomas. Le miracle de la foi se produit chaque chaque fois, oui, chaque fois que nous mettons nos doigts dans ces plaies. Alors, là, se réalise la promesse qui a été faite par Jésus dans le discours sur le pain qu'il avait tenu dans la synagogue de Capernaum. Qui mange ma chair, a-t-il dit, et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui, en elle, j'ajoute. Saint Jean chapitre 6, verset 56. L'apôtre Jean emploie dans ce passage le mot grec trogon, qui veut dire mâcher, croquer, grignoter des friandises. Il s'agit donc d'une façon sensuelle de manger. En mâchant, j'entre vraiment en contact avec la chair du ressuscité. Je touche ses blessures par lesquelles s'est produit le miracle de son amour pour nous. Les blessures sont pour l'apôtre Jean le signe de l'amour et du don de soi de Jésus. Goûter le pain du ciel, c'est comme donner un baiser à l'aimé, quelqu'un que nous aimons. En buvant le vin, le sang jaillit de son côté et nous pouvons faire nôtre ce verset du fameux Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 10, où il est dit que ton amour est délicieux plus que le vin. Nous ne pouvons percevoir cet amour que dans la foi et que si nous croyons vraiment que le ressuscité est parmi nous. Chers amis, sur quelle expérience ta foi peut-elle s'appuyer? À quel moment le doute t'a-t-il aidé à approfondir ta foi et à te libérer de tes illusions? Que signifie pour toi mettre tes mains dans les plaies de Jésus? Quand as-tu rencontré le ressuscité et quand l'as-tu touché? À l'invitation que lui fait Jésus de mettre ses doigts dans ses blessures, Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu » Saint Jean chapitre 20, verset 28. En effet, c'est dans l'évangile de Saint Jean la reconnaissance la plus claire de la divinité de Jésus. Dans le premier chapitre de son évangile, l'apôtre Jean décrit de très belle façon l'appel des premiers disciples et comment ils ont la révélation du mystère de Jésus. Les deux premiers disciples lui demandent « Rabbi, où demeures-tu ? » Saint Jean chapitre 1 verset 38. André dit à Simon « Nous l'avons trouvé, nous avons trouvé le Messie. » Saint Jean chapitre 1 verset 41. Nathanaël, lui, il doute, exactement comme Thomas. Il ne veut pas croire que de Nazareth puisse venir quelque chose de bien, de bon. Après que Jésus a lu dans ses pensées, alors voilà qu'il répond, « Oui, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Saint Jean, chapitre 1, verset 49. Dans le chapitre de la résurrection, l'apôtre Jean reprend le schéma de la confession personnelle utilisé au moment de l'appel des disciples. Il s'adresse à Marie de Magdala et à Thomas en particulier, et non à la communauté des femmes ou à celle des disciples. La foi n'est pas l'affaire de la communauté en tant que telle, mais la foi, c'est celle de chacun en particulier. En effet, chacun de nous, à son tour, doit comprendre qui est Dieu et qui est Jésus de Nazareth. L'apogée de la confession de foi, elle s'exprime à la fin de l'évangile de Saint Jean par le possessif « mon », M-O-N, « mon », « mein Gott », « mein Jesus ». Alors que les premiers disciples appelaient Jésus « Rabbi », Marie de Magdala, elle l'appelle « Rabboni », c'est-à-dire « mon maître ». Jésus n'est pas n'importe quel rabbi. Ah non, 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 non. Ce n'est pas non plus un rabbi plus grand que les autres. C'est son rabbi à elle. Il s'est révélé par ses paroles, ses miracles, par sa mort, d'être celui à qui elle peut dire « mon maître ». Ce possessif exprime une relation très profonde, un lien d'amour tendre qui s'est épanoui peu à peu dans les paroles et dans les rencontres. De même, Thomas reprend la confession de Nathanaël. En effet, tu es le Fils de Dieu. Mais il lui ajoute le possessif « mon », « mon Seigneur » et « mon Dieu ». Il ne s'agit pas là de la confession de foi de l'Église ou d'une communauté, mais il s'agit là de la foi d'une confession toute singulière, éprouvée personnellement. Voyez-vous ? Personnellement. C'est aussi l'amour qu'il éprouve dans sa chair qui conduit Thomas à cette confession. Que Jésus ait accepté l'exigence de Thomas de toucher ses plaies, c'est le signe d'un amour qui peut transformer ceux qui doutent et ceux qui ne croient pas. Chers amis à l'écoute, mais simplement, essaie de mettre sur le papier ta profession de foi personnelle, non pas ce que ta croyance doit aux autres ou au catéchisme à l'école du dimanche, mais ce que Jésus t'a dit à toi personnellement, ce que Dieu signifie vraiment pour toi, et ce que veut dire la résurrection pour toi en particulier. Quelle image, quel nom te viennent à l'esprit quand tu penses à Jésus? Prononce ces mots tout simplement à voix haute et ajoute-leur le possessif « mon »,« tu bist mein ». Tu es à moi. Laisse donc ton cœur entendre ces expressions. Laisse-les résonner en toi. Oui, tu es mon Seigneur. Tu es mon berger. Tu es mon frère. Tu es mon ami. Tu es mon thérapeute. Tu es mon refuge. Tu es mon rocher et mon Dieu. Alléluia. Quand tu prononces lentement les mots de Thomas, « mon Seigneur et mon Dieu », tu fais ce rejoindre les opposés, la proximité et la distance, l'amour et la crainte, la foi et l'incroyance, la certitude et le doute, oui, Dieu et l'homme. Le Dieu lointain devient maintenant ton Dieu. Le Dieu inaccessible devient maintenant accessible et tangible. Ainsi, dans l'amour, la distance qui te sépare de Dieu, elle s'efface, et dans le Christ, tu ne fais plus que un avec Dieu. La rencontre entre Jésus et Thomas se termine par ces mots: « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui quand même ont cru. » Saint Jean, chapitre 20, verset 29. Beaucoup pensent que ces paroles nous sont destinées à nous et à nous qui ne pouvons plus voir physiquement, évidemment, le ressuscité et qui devons quand même croire. Pourtant, si notre foi se reconnaît en Thomas, nous devons donner à ces mots un sens différent. L'expérience de la foi emprunte deux chemins obligés. Comme Thomas, nous avons le droit de voir et de toucher le ressuscité. Mais nous ne voyons pas toujours clairement. À certains moments de notre vie, nous ne voyons rien, absolument rien. Parfois même, nous ne ressentons rien. Nous voudrions éprouver et toucher, évidemment. Et nous avons le droit de le faire, mais nous ne pouvons pas forcer l'expérience. Il nous faut lier foi et preuve de la foi. Nous devons les lier ensemble, la foi et les preuves de la foi. Notre chemin traverse donc parfois le désert, et cela traverse parfois le vide et l'obscurité. Et alors nous ne voyons plus rien. Jésus loue tous ceux qui n'ont pas vu, comme toi et moi, et qui malgré tout ont cru. Il semble évident qu'il voudrait là nous appeler à une forme supérieure de foi. La foi dépasse l'expérience. Elle existe souvent même en l'absence de preuves. Elle reste alors fidèle au Dieu invisible et intangible. Beaucoup de croyants connaissent ces moments-là. Ils sont dans un trou noir, ils sont là, sans lumière, dans la nuit, ils souffrent de leurs blessures et n'en voient pas la guérison, mais ils se savent malgré tout dans la main de Dieu. Ces paroles de Jésus ne concernent pas seulement les hommes du 21e siècle, mais nous sommes, nous, et nous pouvons, évidemment, maintenant plus voir Jésus à la manière de ses disciples, c'est vrai, au 21e siècle, bien sûr. Mais, concernant tous ceux qui, dans l'histoire, ont vécu des périodes troubles, même des périodes sans issue, des périodes où les promesses bibliques de guérison et de libération semblent très lointaines, malgré tout, ils ont cru. Celui qui, dans une telle obscurité, croit et peut croire, croyez-moi, il et elle, j'ajoute, est bienheureux, bienheureuse et mérite toute la louange. Jésus ne demande pas l'impossible, car lui-même a connu une telle obscurité. Dans son combat avec la mort sur la croix, quand tout, absolument tout, semblait sans issue, il a gardé foi en Dieu, son Père. Beaucoup des Juifs conduits à la chambre de gaz, croyez-moi, c'est vrai, sont restés fidèles à Yahvé l'Éternel, en dépit de la peur et du doute. C'est une grâce de croire quand Dieu semble absent et que nous n'avons personne pour nous accompagner et nous redonner espoir. C'est un cadeau du ciel que d'avoir au fond de son cœur une foi inébranlable, même dans l'adversité. Les mots de Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cela constitue la neuvième des béatitudes, celle qui rassemble toutes les autres. Pour terminer notre étude, toi-même, cher ami à l'écoute, essaye de chercher à comprendre cette béatitude. Laisse-toi initier à la foi par Thomas. En allemand, évidemment, c'est Thomas. Essaye de croire que chacun a ses bons côtés. On n'a pas que le côté sombre. On n'est pas uniquement négatif et noir. Même si l'agressivité te masque tout cela, tu voudrais bien te croire dans la main de Dieu, et même si cela ne te paraît pas être le cas en ce moment même, eh bien tu voudrais bien que la maladie, par exemple, cette terrible maladie qui te touche, ou touche un ami très cher à toi, ait un sens même, et tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne comprends pas pourquoi il ou elle est malade. Essaye alors de voir l'invisible dans le visible. Essaye de voir l'amour dans les blessures, le bonheur dans les offenses et l'amour du ressuscité dans tout ce qui t'arrive. Et chaque fois que tu sauras voir au-delà des apparences, comme notre ami Thomas, tu toucheras celui qui veut te remplir de son amour. Et je voudrais juste dire, avant que nous prions ensemble, que vous pouvez, si vous possédez Internet, je n'ai pas Internet, mais je travaille à mon très grand âge pour mettre tous ces milliers de messages sur Internet. Vous pouvez trouver toute une série concernant la guérison. Ce n'est pas quelque chose de fictif, ce n'est pas du tout quelque chose de virtuel, mais une réalité. Et vous trouverez donc des, je crois, quelques centaines de CD uniquement sur ce sujet-là, sans compter tous les autres sujets. Il y en a plus de 3000. Maintenant, nous allons prier ensemble. Je voudrais juste vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Après, nous prierons et j'essayerai. Oh, la technique, c'est pas mon fort, pas du tout. Mais j'essayerai de vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé. On peut bien dire. C'était une chanteuse baptiste, très connue en ce temps-là, qui s'appelait Mahalia Jackson. Je vous dis d'abord les strophes d'un ancien cantique. Seigneur, rends-moi ton joug plus facile, et dans ton sein cache-moi. Dans cet asile exempt d'effroi, mon cœur tranquille vivra pour toi. Qu'ainsi ma paix soit parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort, dans la tempête deviens mon port et ma retraite, même en la mort. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir ainsi conservé le souvenir de ces saintes et ineffables paroles que notre Sauveur adressait à ses disciples au moment de se séparer d'eux. Fais que nous les recevions dans notre cœur comme s'il nous disait lui-même « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » Oui, Dieu de paix, remplis nos cœurs de cette paix que peut seul nous donner le sentiment de ton pardon et de notre réconciliation avec toi. Ô Jésus-Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, qui nous a choisis et établis quand nous nous égarions loin de toi, afin que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits, et que notre fruit soit permanent, afin aussi que tout ce que nous demandons au Père en ton Saint-Nom, il nous le donne. Demeure en nous, Seigneur, et nous en toi. Car hors de toi, nous ne pouvons rien faire. En nous-mêmes, nous ne trouvons que le péché et l'incrédulité, mais tu as porté la peine de notre péché. Et si nous pouvons croire, toutes choses nous deviendront vraiment possibles. Enseigne-nous à garder ta parole, afin que le Père nous aime, et qu'il vienne pour habiter en nous par cet esprit de consolation que tu nous as promis. Que ce soit cet esprit lui-même qui dicte nos prières, et qui inspire le culte que nous te rendons, afin que notre requête parvienne jusqu'à toi, comme un parfum d'agréables odeurs, jusqu'au jour où tu reviendras pour nous prendre à toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que là où tu es, nous y soyons aussi avec toi. Amen. Et j'ai oublié de vous dire, pour Internet, vous pouvez trouver cela, 3xW, donc www, Bible explique en un seul mot.ch. Il y a plus de 3000 sujets. Et maintenant, je vais essayer de vous transmettre, Dieu voulant, quelques chants d'un lointain passé, 1968.
I'm a pilgrim and a stranger. Rough and thorny is the road, often in the midst of danger, but it leads to God. Mid the conflict and strife, my Father knows, and He gives me sweet repose. Yes, I'm a pilgrim.
Lord, I'm a pilgrim. Lord, and I'm a stranger. Well, I'm a traveling through. Lord, it's this barren land. Oh, God knows I got a home. Up in yonder city. Side of man,
side of man.
Well, promise Lord. Oh yes, that I would meet them Lord, on the earth, on the earth, the shore,
the shore.
God knows I'm a pilgrim. Lord, I'm a stranger. Well, I'm a traveling too. Oh, Lord, there's a land, barren land. Don't you know I got a home? Oh, yeah, I've been yonder city.
That the Savior has
call.
Oh, when
up to the
end of my journey,
I'm weary of life. Oh, you know the battle, Lord, the battle is won. I'll be cast, bring the staff and the cross.
Understand.